Les deux orphelines, première partie, chapitre 5. Monsieur de Lignières avait retardé son départ, heureux de penser que son voyage politique allait être transformé en un délicieux voyage de noces. Le marquis avait hâté les préparatifs et multiplié les invitations. Enfin, au bout de 8 jours, tout était prêt. Le contrat avait été signé la veille et le mariage religieux allait être célébré à 3 heures dans la chapelle dont on n'avait plus qu'à allumer les cierges. Pendant la semaine qui venait de s'écouler, Diane avait montré à son père la soumission la plus complète. Pas un mot de la lettre brûlée, ni de ce qu'elle devait lui apprendre, n'avait été prononcé entre eux. Le marquis ne voulait rien savoir, et du moment que sa fille obéissait, tout était bien. Il n'en demandait pas davantage. De son côté, Diane évitait, avec le plus grand soin, toute allusion à la scène qui avait eu lieu dans sa chambre. Elle courbait la tête devant une volonté inflexible. Elle se sacrifiait complètement. Mais elle sauvait sa fille de tous les dangers dont elle la sentait menacée, et cela seul suffisait pour lui donner du calme et de la force. On aurait pu la croire heureuse. Hélas, la pauvre enfant. À toutes les douleurs secrètes dont son cœur était déchiré, une souffrance nouvelle devait s'ajouter encore. Elle allait tromper un honnête homme. La pendule venait de sonner 2 heures. Marion et les filles de service achevaient de préparer la toilette de la mariée et d'activer le feu, car la journée était sombre et la neige couvrait les arbres du jardin. Diane avait abandonné sa tête à la coiffeuse. Une autre servante lui mettait des souliers de satin blanc, garnis de dentelles et de rubans. Assise et silencieuse, elle regardait tout et ne voyait rien. Ou plutôt, elle se demandait si vraiment c'était pour elle que l'on faisait tous ces riches apprêts. Julie, sa femme de chambre, vint lui en donner la preuve. « Mademoiselle, voilà le bouquet de la mariée. On vient de l'apporter de la part de monsieur le comte de Lignières. » Diane, rendue à la réalité, prit le bouquet et le posa à côté d'elle sans même le regarder. « Quand mademoiselle voudra passer sa robe, nous attendons ses ordres. »«
C'est bien, » fit Diane. « Dans un instant. Allez, mesdemoiselles, je vous sonnerai. »
Les servantes s'éloignèrent, assez surprises du peu d'empressement de leur maîtresse. Marion seule était restée. Elle comprenait qu'on avait quelque chose à lui dire en particulier. Diane, en effet, s'empressa d'ouvrir un des tiroirs du petit bureau. Elle y prit 3 ou 4 rouleaux d'or et revenant vers Marion. «
Tiens, lui dit-elle, voilà toutes mes économies. »«
Mais j'en ai pas besoin de vos économies. »«
Je ne manquons de rien ici, » répondit la Bretonne un peu froissée.
« Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour elle. »
Et elle ajouta avec un soupir. « Ce soir, j'aurai quitté cette maison. Je ne m'appartiendrai plus, et on aura sans cesse les yeux sur moi. S'il arrivait que la pauvre abandonnée eût besoin de quelque chose, au moins tu serais là pour le lui donner. Prends, te dis-je, et je partirai moins malheureuse. »«
Donnez donc, » fit Marion en acceptant les rouleaux d'or, qu'elle fit aussitôt disparaître dans une des poches de son tablier.
Quelques instants après, la toilette de la mariée était achevée. Le marquis ouvrit brusquement la porte.
« Êtes-vous prête ? » dit-il.
« Je suis à vos ordres, mon père.
Prenez mon bras, on nous attend. »
Sans rien ajouter, mademoiselle de Vaudrey sortit avec le marquis et Marion vint s'appuyer contre la porte, envoyant un dernier adieu à sa Diane bien-aimée. La Marion comprenait combien était grand le sacrifice que s'imposait sa jeune maîtresse. N'avait-elle pas été, avec la sœur de Diane, la confidente de la naissance de la petite Louise ? Ne s'était-elle pas, ainsi que mademoiselle de Vaudrey l'écrivait dans la lettre à son père, chargée d'emmener l'enfant de chez son cousin à elle, le jardinier de Meudon. Cet honnête homme était lui-même père d'une petite fille. Sa brave femme, la cousine Jeanne, avait promis à Marion de prendre bien soin de l'enfant et de l'élever comme le sien propre. La petite somme qu'on donnerait pour la pension de Louise serait certainement bienvenue dans le pauvre ménage du jardinier, car il fallait travailler dur et toute l'année pour joindre les deux bouts. Aussi, depuis le jour où elle avait accepté de soigner l'enfant qu'on lui confiait, la cousine Jeanne n'avait jamais failli à sa promesse. Une fois par mois, le jardinier faisait le voyage de Paris pour apporter à Marion des nouvelles de la petite, et cela à jour fixe. Il était convenu avec Marion d'un signal, un coup de sifflet modulé d'une façon spéciale. Ce signal, la Bretonne le connaissait bien,
et elle aussi attendait avec impatience le jour fixé. N'avait-elle pas, en effet, reporté sur l'enfant une partie de l'affection qu'elle avait pour la mère? Aussi, lorsque Diane lui eut confié les rouleaux d'or, après la première hésitation, les avait-elle acceptés? « Ce sera pour aider la cousine Jeanne, s'était-elle dit, car la pauvre femme n'est pas très forte, et elle s'épuise chaque jour un peu plus à la besogne. » Dans la pensée de la Bretonne, cet argent économisé avec soin allait pour longtemps apporter du bien-être dans l'humble demeure de ces braves gens, et elle faisait déjà des projets. Avec une partie de la somme, se disait-elle, le cousin pourra ajouter quelques arpents de terre à son potager. Il y avait précisément du terrain attenant à louer à Lombaille. Marion se chargerait de la négociation et en ferait la surprise au brave jardinier. Puis, ajoutait-elle mentalement, avec une autre somme, j'habillerais la petite fille de Jeanne, cette pauvre enfant qui envie, je le vois bien, les chiffons et les rubans qu'elle voit aux autres, dont les parents sont plus fortunés. Peu à peu, la Bretonne s'était plongée dans ses réflexions, évoquant le souvenir des tristesses qu'elle avait éprouvées lors de la douloureuse aventure de Mademoiselle de Vaudrey. Que de transes pendant les premiers mois! Que de précautions à prendre pour cacher la vérité! Que de fois, en se trouvant en présence du marquis, n'avait-elle pas senti le rouge lui monter au visage, à l'idée qu'elle aidait à tromper ce maître pour lequel elle avait un dévouement si grand? Et ce mensonge qui lui pesait tant, il ne se serait pas passé un seul jour sans que dans ses prières, elle en eût demandé pardon à Dieu. « C'est pour ma Diane, confessait-elle, que j'ai commis ce péché. Pardonnez-moi, Seigneur, comme vous avez déjà sans doute pardonné à la pauvre coupable. » Tout à coup, Marion tressaillit. Il lui avait semblé entendre un bruit bien connu. « Le signal !» s'écria-t-elle. Puis, tout émue, elle prêta l'oreille. Un second coup de sifflet retentit dans la rue. Marion se leva d'un bond et courut à la croisée. Elle avait écarté les rideaux et son regard fouillait les environs lorsqu'un troisième coup de sifflet se fit entendre, beaucoup plus rapproché de l'hôtel. « Ah, cette fois, je me trompe au point, » fit Marion. « Ce sifflet, là-bas, c'est le sien. Et pourtant, c'est pas son jour. Qu'est-ce qui peut l'amener? Courons vite. En passant par la terrasse et par la serre, je risquons pas d'être vu. » En effet, tous les gens de la maison étaient occupés au service et personne ne se serait risqué dans le jardin par ce temps de neige. Marion arriva donc bientôt à la petite porte. À peine l'eut-elle ouverte qu'un homme se précipita dans le jardin. Il était affreusement pâle et tenait dans ses bras la petite Louise. « Marion, dit-il, voilà l'enfant que je vous rapporte. Seigneur, qu'est-ce que j'entends? Y a donc un malheur d'arriver? Ma femme est morte. Morte? Oui, ma Jeanne que j'adorais. C'est affreux, c'est horrible, répétait Marion pendant que son malheureux cousin lui mettait Louise dans les bras. Et cette pauvre enfant, qu'est-ce que je vais en faire? Et la mienne donc, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle qui est seule à cette heure, et qui se lamente, pauvrette, qui prie seule à côté du cadavre de sa mère? J'ai fait 3 lieues pour vous ramener cet enfant. J'en ai autant à faire encore pour revoir l'autre. Et j'y cours. Adieu, Marion. Si je reste 1 minute de plus, je deviendrai fou. Adieu. Marion fit bien un mouvement pour le retenir, mais il était déjà loin. Alors, sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle referma la porte du jardin, puis elle entra dans le kiosque et se laissa tomber sur une chaise en pressant l'enfant dans ses bras. Elle resta ainsi pendant quelques minutes, immobile et comme paralysée. En ce moment, l'orgue de la chapelle se fit entendre. « C'est la messe qui finit, s'écria Marion toute frémissante. C'est le mariage de ta mère, pauvre petite. Et te v'là, sans asile, sans nourrice. Que faire? Dans un instant, tout le monde sera de retour. Et si monsieur le marquis te trouve ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Quel éclat et quel scandale! C'est le déshonneur de ta mère et ta perte, pauvre enfant. Non, non, je ne le veux pas, je ne le veux pas. » Et dans son trouble, elle froissait dans sa poche les rouleaux d'or que Diane lui avait remis. « Que faire ? » s'écria-t-elle. « À qui confier cette petite maintenant ?» Les cloches de la chapelle se mirent à sonner, et Marion pensa qu'on allait venir. Elle se leva, marchant fiévreusement dans cette chambre, comme si elle y eût cherché un endroit où cacher la petite Louise. En ce moment où son esprit s'égarait, se représentait le marquis, son maître, entrant à l'improviste et la surprenant ainsi. Cette pensée l'affola. Elle courut de nouveau à la croisée. Au dehors, la nuit était venue. Si elle sortait, à tout prix elle devait emporter l'enfant, n'importe où, pourvu qu'on ne puisse la voir dans l'hôtel de Varennes.
Marion en était arrivée à ce degré où l'affolement peut dicter les plus violentes résolutions.
« Non, murmura-t-elle haletante, le nom de mes maîtres ne sera pas déshonoré. »
Elle tenait toujours les rouleaux d'or dans sa main crispée.
« Avec cette somme, pensa-t-elle, je trouverai bien quelqu'un. »
Puis, subitement, il lui vint une pensée terrible qu'elle accepta cependant sans frémir.
« Oui, reprit-elle, quelqu'un la trouvera, la recueillera. Il le faut. »
La Bretonne venait de disposer du sort de l'enfant de Diane. Cette fois, rien ne l'arrêterait dans l'accomplissement de son projet. Ne s'agissait-il pas, pour elle, de sauver du scandale et du déshonneur le nom de Vaudrey? La Bretonne, on le sait, poussait le dévouement à l'honneur de ses maîtres jusqu'aux plus extrêmes limites. Une fois décidée à agir, elle oublia et Diane, à qui elle devait compte du sort de son enfant, et la pauvre innocente créature qu'elle allait abandonner impitoyablement. C'est avec une précipitation fiévreuse qu'elle glissa les rouleaux d'or dans les langes de l'enfant. Puis, au moment de sortir, elle s'arrêta devant le petit secrétaire en bois de rose. Ne devait-elle pas recommander l'enfant de Diane à la personne charitable qui voudrait bien la recueillir? Et de sa grosse écriture tremblée, la Bretonne traça ces mots sur un bout de papier. « Je me nomme Louise, aimez-moi. » Le petit feuillet plié, elle le glissa également dans les langes. C'en était fait. Elle prit l'enfant dans ses bras et, la tête perdue, elle s'enfuit de la chambre furtivement et gagna le kiosque par un escalier de service. Là, elle enveloppa la petite Louise dans la pelisse qui avait servi au jardinier à l'envelopper pour l'amener par ce froid de Meudon à Paris. Une fois dehors, Marion prit rapidement la direction du parvis Notre-Dame. Or, pendant que la Bretonne disparaissait ainsi, perdue dans le brouillard, la noce de Diane sortait processionnellement de la chapelle de l'hôtel de Varennes. Le marquis triomphait. Toutes ses espérances venaient de se réaliser. Mademoiselle de Vaudrey était maintenant comtesse de Lignières. Et, alors même où de joyeux vivats accueillaient le retour des nouveaux époux, dans le salon d'honneur de l'hôtel, Marion déposait sur les marches du parvis Notre-Dame l'enfant de la jeune mariée. C'est ainsi qu'au moment d'abandonner son propre enfant, Michel Gérard avait recueilli et emporté, avec sa propre fille, la fille de la jeune comtesse de Lignières. Après avoir abandonné Louise, Marion s'était embusquée à l'entrée d'une ruelle pour s'assurer que quelqu'un se chargerait de la petite. Elle vit Michel Gérard soulever l'enfant et l'emporter. Alors, le cœur de la Bretonne se serra, comme si Dieu, en ce moment, lui eût envoyé un remords. Mais elle ne fit point un pas. Elle ne poussa pas un cri. Seulement, lorsque l'homme qui emmenait Louise eut traversé la place, Marion le suivit de loin. Elle put ainsi le voir disparaître rue de la Mortellerie, dans le corridor d'une maison dont elle grava le numéro dans sa mémoire.